Bonjour à tous, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir cet après-midi pour une rencontre consacrée au roman Berlin-Alexanderplatz d'Alfred Döblin. Alors, cette rencontre s'inscrit dans un cycle des rencontres pluridisciplinaires qui ont été organisées à l'occasion de l'exposition Allemagne années 20, que vous pouvez voir au sixième étage. Donc, merci beaucoup à tous d'être là et un très grand merci à Jean-Pierre Morel, professeur émérite à l'Université Paris 3, traducteur et chercheur, qui nous fait l'amitié d'animer, de modérer cette rencontre. Je lui laisse tout de suite la parole pour vous présenter les sujets et nos invités. Très bonne rencontre.
Merci Monica. Donc, nous sommes réunis et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont déplacés par le temps qu'il fait aujourd'hui, je ne commenterai pas davantage, pour nous entendre parler du roman d'Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz, dont la nouvelle traduction est parue il y a quelques années aux éditions Gallimard. Elle est disponible également, je le montre aussi, sous ce format, dans la collection de poche qui s'appelle Folio. Nous avions prévu initialement de nous réunir autour de l'auteur de cette nouvelle traduction, Olivier Lelay, qui malheureusement ne sera pas parmi nous ce soir en raison d'un empêchement survenu de manière tout à fait inopinée, et nous regrettons beaucoup qu'il ne puisse nous apporter le concours de son expérience de traducteur sur un roman aussi difficile. Mais j'ai la chance d'avoir auprès de moi, pour cet entretien sur Berlin-Alexanderplatz, deux spécialistes confirmés d'Alfred Döblin et plus généralement des formes romanesques au XXe siècle, à savoir Madame Alison Boulanger, qui enseigne la littérature comparée à l'Université de Lille, qui travaille sur les formes romanesques et la représentation de l'histoire au XXe et au XXIe siècle, qui a fait à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, en 2003, une thèse très remarquable intitulée « La littérature comme dévoilement » où Berlin-Alexanderplatz d'Alfred Döblin jouait un rôle tout à fait considérable. Elle est l'auteur de plusieurs autres publications, notamment sur le roman de la discontinuité. Et elle codirige une revue en ligne qui s'intitule « Les grandes figures historiques » dans les lettres et les arts, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et après Alison Boulanger, j'ai la chance d'avoir aussi à mes côtés Alexandre Seurat, qui enseigne, lui, la littérature à l'Université d'Angers, qui travaille plus spécialement sur les rapports entre psychiatrie, psychanalyse et littérature au XXe et au XXIe siècle, qui a publié une thèse où il est aussi beaucoup question de Döblin et de Berlin-Alexanderplatz et qui s'appelle « La perte des limites » en 2016 aux éditions Honoré Champion. Et je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mettons, par ailleurs, Alexandre Seurat est romancier et il a publié 4 romans aux éditions du Rouergue qui s'étage entre le premier, paru en 2015, qui s'intitule « La maladroite » et qui a fait l'objet d'une adaptation à la télévision, et la dernière de ses productions littéraires s'intitule « Petit frère », paru il y a 3 ans. Je les remercie de leur présence. Je vais leur donner la parole dans une minute, mais je dis quelques mots tout d'abord d'introduction sur le livre dont il va être question. C'est tout d'abord, et comme l'a rappelé notre puissance invitante Monika Prochniewicz dans son introduction, C'est un livre emblématique de ce dont il est question par ailleurs dans l'exposition qui se tient en ce moment dans ces locaux mêmes, emblématique de la production littéraire et artistique de la République de Weimar. Il s'agit d'un des romans les plus célèbres de cette période, paru à l'automne de 1929 après une publication en feuilleton dans un des plus grands journaux allemands, la Frankfurter Zeitung, et qui a été un énorme succès de librairie, à commencer par, à la surprise de son auteur lui-même, qui jusque-là avait écrit 6 ou 7 romans, qui était loin d'avoir connu, qui lui avait assuré une notoriété honnête, mais qui n'avait pas été des best-sellers. Ce roman, à partir de l'édition danoise, a été traduit en plusieurs langues, en danois, en néerlandais, en anglais, dans une traduction très remarquable d'Eugène Jolas, parue à New York en 1931, et en français en 1933, traduction sur laquelle nous reviendrons dans un moment. Emblématique de la République de Weimar, c'est un livre écrit par un Berlinois, ou du moins un Berlinois d'adoption. Il s'est installé à Berlin à l'âge de 10 ans. Écrit par un médecin conventionné des quartiers populaires, un médecin qui donne des consultations de psychiatrie et de neurologie pendant 14 ans. Et qui est aussi, en plus d'être berlinois d'adoption et médecin, une des figures principales de la vie littéraire et intellectuelle de la République de Weimar, à la fois romancier, mais également essayiste et aussi intellectuel très engagé dans la vie politique et dans le débat d'opinion de la République de Weimar à cette période extrêmement compliqué, comme vous le savez, et qui va se terminer tragiquement en 1933, cette période qui commence en 1918, où l'Allemagne a trouvé l'issue hors de la structure impériale, mais n'a pas encore trouvé tout à fait, bien qu'elle soit une république, le chemin de la démocratie. Il lui faudra attendre encore un certain nombre de décennies avant d'y parvenir. Et élu en 1928 à l'Académie prussienne des Beaux-Arts, Döblin est une des principales figures de l'intelligentsia allemande de l'époque et il est un des écrivains qui sont passés le plus résolument du côté de la République. Il a beaucoup d'amitié à gauche, je citerai un seul nom pour qui soit parlant, celui de Bertolt Brecht. Et ça lui vaut évidemment cette prise de parti en faveur de la gauche démocratique et de la République. Ça lui vaut l'inimitié et la haine des nazis. Et il devra quitter l'Allemagne en 1933, précisément au moment où la traduction de Berlin-Alexanderplatz va paraître à Paris. C'est un livre emblématique de la République de Weimar, mais c'est un grand livre également, et ça c'est un des mérites indéniables de la traduction d'Olivier Lelay de nous le faire découvrir, c'est un des très grands romans des années 20 du XXe siècle. Disons, pour fixer un point de repère, c'est un roman qui s'inscrit dans la même période qu'Ulysse de Joyce en 1922, Manhattan Transfer de Dos Passos en 1925, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf un peu plus tard. Donc c'est un roman de cette envergure-là. Et pour terminer cette courte présentation, j'insisterai sur le fait que c'est un roman qui a une postérité importante sur le plan cinématographique. On sait que le destin de la production artistique et littéraire de la République de Weimar est très lié au cinéma. Il suffit d'évoquer les noms de Fritz Lang avec Metropolis, le docteur Mabuse ou M. le Maudit en 1932, mais également un roman qui a beaucoup influencé Döblin qui est le Berlin Symphonie d'une grande ville de Ruttmann, qui est de 1927. Et par ailleurs, dès 1931, Döblin a lui-même collaboré au scénario d'un film qui s'appelle Berlin Alexanderplatz et qu'on connaît en français plutôt sous le nom de Sur le pavé de Berlin. En 1980, il faut citer bien entendu la très grande, et on aura l'occasion d'y revenir je pense à la fin, la très grande adaptation sous forme d'une série par Rainer Werner Fassbinder en 14 épisodes sous le même nom, Berlin Alexanderplatz. Et tout récemment, vous avez peut-être eu l'occasion de voir un film allemand qui date de 2020, qui porte le même titre et qui est une autre sorte d'adaptation de Berlin Alexanderplatz. Voilà, pour faire un petit peu la présentation très rapide et très schématique. Et maintenant, je vais me tourner vers nos invités et nos spécialistes. Et j'aimerais demander tout d'abord à Alexandre Seurat de nous rappeler les deux traductions, de nous rappeler l'existence des deux traductions françaises de Berlin Alexanderplatz et en quoi celle d'Olivier Lelay, la plus récente, lui paraît marquante.
Alors tout d'abord, bonsoir à tous et merci à Jean-Pierre Morel de diriger un petit peu cette rencontre et à Monika Prochniewicz d'avoir été à l'origine de cette rencontre. Alors comme Jean-Pierre Morel l'a mentionné tout à l'heure, malheureusement Olivier Lelay, qui est l'auteur de cette traduction vraiment majeure, c'est vraiment un chef-d'œuvre de traduction, ne peut pas être là ce soir pour expliquer un petit peu les choix qu'il a fait et pourquoi une retraduction était indispensable. Et donc je vais peut-être essayer de le rendre présent à travers quelques mots sur la précédente traduction qui existait, qui a été faite très tôt en réalité, hein, puisque dès 1933, le roman existait en français. Donc on pouvait penser que cette œuvre majeure était lisible des lecteurs français. Mais les différences avec la retraduction et surtout avec le texte allemand sont absolument majeures dans cette première traduction. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le texte a été traduit par une traductrice assez peu connue, Zoya Mochan, qui a été mandatée par Gallimard pour traduire le texte très tôt. Et vraisemblablement, la traductrice a été très mal à l'aise, enfin effarée par la nouveauté du texte. On peut le deviner aux multiples interventions qu'elle fait subir au texte. La première chose, c'est qu'elle adopte une méthode que les théoriciens de la traduction qualifie d'ethnocentrique, c'est-à-dire qu'elle va essayer de traduire dans des réalités françaises une série de réalités culturelles allemandes. Je vous donne un simple exemple qui est que, par exemple, elle va essayer de traduire tous les noms de rues qui peuvent avoir un sens. Donc, par exemple, excusez-moi pour mon allemand qui est assez défectueux, mais par exemple, Fowler See Park devient le parc de la mare stagnante dans la traduction de Zoya Mochan. Si bien qu'on a un roman de la grande ville, un roman de Berlin qui va devenir un roman qui, par moments, semble se passer dans une petite ville de province avec des noms de rues qui sont tout à fait anecdotiques, qui frappent l'oreille, mais qui n'ont rien à voir avec l'existence brute de la ville, puisque à côté de ça, il y a plein de rues qui sont intraduisibles et qui restent intraduites, évidemment. Elle va essayer d'expliquer aux lecteurs français ce que sont les grands bars, les grands cafés berlinois, et de trouver des équivalents français de l'époque. Et donc, le livre devient quelque chose qui peut être similaire à un roman français des années 30, type ceux de Eugène Dabi. Elle essaye de traduire l'argot berlinois par de l'argot parisien, et ça donne un résultat un petit peu hybride et pas tout à fait authentique par rapport à l'original. Ça, c'est peut-être la première intervention qu'elle fait subir. Une deuxième intervention peut-être plus grave, c'est que le livre, on va y venir, est une sorte de patchwork entre le récit de la vie de Bieberkopf et toute une série de textes qui parfois sont recopiés tels quels des journaux de l'époque, ou qui parfois sont des récits interpolés au texte principal et qui se fondent à la trame narrative de manière quasi invisible. Et donc c'est le lecteur qui est surpris par l'intervention tout à coup d'un texte totalement hétérogène au récit principal. Zoya Mochan va extraire ces extraits de journaux, par exemple, pour les mettre en italique et faire un paragraphe qui soit bien identifiable du lecteur français pour qu'il puisse repérer l'intervention d'un texte tout à fait hétérogène au récit principal. Donc ça, c'est une intervention majeure, puisque le collage, c'est un mode d'écriture vraiment essentiel dans le travail de Dublin. Et puis, voilà, pour finir sur les interventions de Zoya Mochan, le pire qu'elle puisse faire, c'est qu'elle réduit le texte, c'est qu'elle efface toute une partie du texte, parce que c'est un texte vraiment tout à fait peut-être illisible pour un certain nombre de lecteurs de l'époque, et donc elle simplifie. Il y a par exemple un chapitre qui s'appelle « Nouvelles locales ». À un moment, on va y venir tout à l'heure, sur ces interventions de Dublin. À certains moments, Dublin interrompt la trame de l'histoire du personnage principal pour nous décrire la vie berlinoise, parfois sur un chapitre entier. Alors, de temps en temps, Zoya Mochan essaye de restituer ses interventions, mais de temps en temps, elle élimine, et parfois des chapitres entiers. Ou alors, le personnage subit des crises de délire impressionnantes, des hallucinations extrêmement fantaisistes à la fin du roman, où interviennent toute une série de personnages symboliques, allégoriques, la mort, la putain Babylone. Et ça, c'est extrêmement complexe, et donc Zoya Mochan efface tous ces passages-là. Si bien qu'à lire le texte, en traduction, dans l'ancienne traduction, on n'avait aucune idée jusqu'à l'arrivée de la traduction d'Olivier Lelay, de ce que pouvait être l'originalité, l'inventivité d'un texte qui peut s'assimiler à l'Ulysse de Joyce. Et donc on avait un texte majeur de la littérature allemande qui n'était pas accessible. Donc le texte a été retraduit en 2009 il a été fait par un traducteur majeur de chez Gallimard, hein, qui a déjà traduit notamment les grandes œuvres de Peter Handke, et qui s'est emparé véritablement du texte de manière à restituer son originalité énonciative, son hétérogénéité dans la manière d'écrire Berlin et puis l'histoire de Biberkopf. Alors je vais prendre quelques exemples de passages qu'il arrive à restituer. Alors, je ne vais pas forcément lire l'allemand, mais en tout cas, Dublin utilise beaucoup de proverbes ou de chansons dans son texte, dans le texte qu'il écrit. Et très souvent, Zoya Mochan essayait de trouver des équivalents à des proverbes, par exemple, des équivalents français à des proverbes allemands. Par exemple, je sais pas, en allemand, ça donne « gleiche Brüder, gleiche Kappen ». Et Zoya Mochan essaye de traduire le proverbe par « tel valet, tel maître ». C'est-à-dire, elle trouve un proverbe bien de chez nous, si vous voulez. Tout le travail d'Olivier Lelay, ça va être au contraire d'essayer de restituer l'étrangeté du proverbe allemand. Il le traduit « même coco, même calot ». C'est-à-dire qu'il trouve quelque chose de très expressif tout en gardant les mots qui sont ceux de l'allemand. Je prends la suite sans vous avoir dit l'allemand, mais « mieux vaut la potence genoux que Vjokir a ramassé les mégots ». C'est-à-dire une langue qui est très expressive, qui se saisit de néologismes, qui fait exister une sorte d'argot en français, mais qui ne cherche pas un argot illusoire qui aurait existé en France dans les années 30, mais qui réinvente une langue écrite en s'inspirant notamment, et c'est ça la grande marque d'Olivier Lelay, d'auteur qui l'imprègne, et pour traduire Berlin Alexanderplatz, il s'est beaucoup imprégné de Céline et de Guyota, par exemple. Donc Vjokir, c'est un néologisme de Céline. Donc je ne vais pas plus longuement m'attarder sur la retraduction, juste pour vous dire qu'on a les chances d'avoir vraiment un chef-d'œuvre qui nous fait entrer, seulement depuis une dizaine d'années, dans la révolution qu'a représenté ce texte pour les lecteurs allemands depuis les années 20.
Merci. Alison Boulanger, vous avez eu le grand mérite et en même temps la difficulté de travailler pour votre thèse sur la première version traduite et réduite dont vient de nous parler Alexandre. Est-ce que la deuxième version, la version d'Olivier Lelay dont on vient de parler, a été pour vous une découverte et sur quel point ?
je crois que je vais un peu sauver Zoya Mochan. Avec tous ses défauts, elle avait quand même rendu ce texte très vivant. Ça, c'est peut-être son mérite. Mais effectivement, elle a eu peur. Elle s'est dit, elle n'a pas vraiment confiance en le lecteur. Elle se dit, le lecteur, il faut pas trop lui compliquer la vie. Et donc, elle simplifie énormément. Alors, effectivement, à l'époque, moi, j'avais pris le parti de le lire en allemand le plus possible. Ce que Lele a rendu possible, c'est de lire ce texte lorsqu'on n'est pas germanophone. Et ça, c'est énorme, en effet. En tant qu'enseignante, j'apprécie, par exemple, de pouvoir le conseiller à des étudiants qui n'ont jamais fait d'allemand. Et en effet, je ne sais pas si j'ai redécouvert le texte, mais je suis d'accord pour dire qu'une grande traduction, c'est une œuvre d'art. Et que Lele est un grand écrivain, c'est-à-dire qu'il a vraiment des trouvailles d'une grande force. Et là, en effet, Zoya Mochan ne boxait pas du tout dans la même catégorie, c'est évident. Donc oui, ça, c'est intéressant, je dirais même pour des germanophones, ça, c'est certainement très beau de lire Berlin Alexanderplatz en traduction et de penser au dialogue entre ces deux œuvres. Oui.
Bien, merci beaucoup. Vos deux interventions nous mettent vraiment dans le cœur du sujet, puisque le texte de... On va progressivement entrer dedans. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit, ce qui pourrait vous paraître un peu paradoxal comme approche, mais on tenait à faire sa place à l'histoire de la traduction. Et on n'a pas encore fait de place à l'action elle-même. Donc, je reprends l'expression dont s'est servi Alexandre, celle d'un patchwork. C'est une espèce de dispositif qui agence, qui mélange, et qui en même temps met en contraste, on pourrait dire, trois lignes d'action. La ligne d'action principale, celle des mésaventures qui arrivent à un personnage de prolétaire berlinois qui sort de prison au début du roman, et qui s'appelle Franz Biberkopf. Le livre porte d'ailleurs significativement comme sous-titre « Histoire de Franz Biberkopf ». La deuxième ligne d'action, c'est une ligne beaucoup plus générale et abstraite que l'on pourrait appeler une chronique berlinoise des années 1927-1928, où le personnage n'est pas présent, alors que sont montrés au lecteur des scènes de rue, des vues, des histoires de Berlinois pris un peu au hasard, et également un collage, comme l'a dit Alexandre, tout à fait riche et foisonnant de discours urbains, que ce soit des publicités, des règlements administratifs, des extraits de journaux, informations politiques ou faits divers, etc. Et la troisième ligne, c'est une série, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail, c'est une série d'emprunts extérieurs à des textes soit de la tradition biblique, dans la traduction de Luther, soit de chansons à la mode, soit de chansons militaires, qui semblent former un commentaire, mais un commentaire à la fois constant et un petit peu mystérieux de l'action principale. Alors, ceci étant rappelé, je me tourne vers Alison Boulanger pour lui demander, et évidemment ça suppose qu'elle nous résume un petit peu ce qui se passe, est-ce que le déroulement de l'histoire de Franz Biberkopf, du livre 1 au livre 9, est aussi progressif, aussi clair et aussi positif, pourrait-on dire, du point de vue du destin du personnage, que ce que laissent entendre les prologues de chacun des livres ou le discours d'un personnage très important à la fin, qui est le personnage de la mort.
Oui, je pense qu'on va peut-être résumer rapidement l'histoire. Franz Biberkopf est un personnage qui a des accès de violence réguliers Et lorsque le roman commence, il sort de prison où il a purgé 4 ans après avoir tué sa petite amie dans une sorte de crise initiée par la jalousie, mais qui, dans laquelle il a complètement perdu contrôle. Or, très régulièrement, alors que Franz, en sortant de prison, jure que c'est fini, c'est passé, ça ne se reproduira plus, Franz ne cesse de retomber dans ces crises extrêmement violentes. Et donc, il y a une sorte de contradiction entre ce qui arrive au personnage, qui encore et encore retombe dans ses démons, et le livre lui-même qui commente en disant « Oui, mais c'est maintenant que ça devient sérieux. Oui, mais maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. » Et qui finit à la fin du roman, effectivement, par dire que Franz Bieberkopf est sauvé, et sauvé au sens fort du terme, puisque, comme l'a dit M. Morel, la mort intervient. Donc c'est un roman très déroutant aussi pour cette raison, c'est que Franz Bieberkopf est allongé sur un lit d'hôpital, agonise, pendant que la mort entre en scène et lui tient un long, long discours dans lequel elle affirme qu'il doit mourir pour être enfin régénéré. Donc ce n'est peut-être pas très étonnant si un certain nombre de lecteurs, y compris la première traductrice, ont trouvé ça assez bizarre et déroutant. Donc, oui, je n'ai pas encore répondu à votre question, hein, vous avez remarqué.
Non, bon, vous avez, voilà, si. Donc, si vous avez répondu, vous nous avez retracé l'histoire de Franz Bieberkopf.
Voilà, mais donc il y a un discours qui dit qu'il y a progression, que cet individu traverse le pire et qu'il est sauvé. C'est le discours principal, on va dire, du livre. Il est tenu par la mort, il est tenu par un certain nombre de prologues ou d'épilogues, et dans le même temps, on peut éprouver de réels doutes en voyant ce personnage retomber constamment dans ses démons. On peut se demander ce que vaut cette salvation finale, et si elle n'est pas une espèce d'illusion ultime du personnage qui, une nouvelle fois, dit « ça y est, c'est fini, c'est passé, ça ne reviendra plus ». Voilà.
Et donc une sorte... Vous réinterpréteriez la linéarité parfaite et la progression par étapes, vous le reverriez comment, quant à vous ?
Pour moi, c'est plus cyclique que linéaire, effectivement. Et on pourrait concilier cycle et progression. On pourrait penser que le personnage s'élève. C'est un modèle qu'on voit, celui de la spirale. Mais je suis un peu sceptique. Pour moi, c'est une cyclicité négative. On tourne en rond.
Alors, je me tourne vers Alexandre pour revenir justement à cette grande scène d'affrontement entre la mort et le personnage principal qui a lieu dans un asile d'aliénés. Et c'est l'occasion de revenir avec un spécialiste sur le cas pathologique que peut représenter l'histoire de Franz Bieberkopf et l'explication de sa retombée incessante dans la violence et dans le crime par la folie.
Oui, alors tout à fait, il y a une dimension psychopathologique dans le récit. Monsieur Jean-Pierre Morel a précisé tout à l'heure que Döblin était psychiatre et neurologue. Il avait fait une thèse sur les psychoses de Korsakov. Il avait exercé le métier de psychiatre dans plusieurs asiles et puis de médecin en ville. Et on voit dans ses premières nouvelles, donc je reprends le sujet d'un peu plus haut, mais dans ses premières nouvelles, qu'il s'intéresse principalement aux cas pathologiques. Il a écrit un recueil de nouvelles qui est accessible en français, qui s'appelle « L'assassinat d'une renoncule », où il s'intéresse à des épisodes de crise de personnages qui rentrent dans des scènes de délire. Un personnage qui va tomber amoureux d'une fleur dans une scène totalement délirante. Un Français sur le front de la Première Guerre mondiale qui monte à l'assaut avec un hérisson dans sa poche et qui est en pleine scène de délire. Et on sent là l'œil du psychiatre qui a, lorsqu'il était en poste dans les asiles, était chargé de faire des études de cas. Et on peut lire dans sa thèse et dans les différents textes psychiatriques qu'il a fait, les études qu'il rédige pour essayer de tirer l'analyse, le diagnostic psychiatrique qu'on peut tirer de telle ou telle observation d'un cas. Et c'est passionnant parce qu'en fait, quand il écrit ses premiers textes littéraires, on a presque l'impression qu'il reprend cette pratique médicale de l'étude de cas psychiatriques. Et à certains égards, on peut dire que Bieber-Kopf hérite de ces études de cas. C'est vraiment un cas, et quand il fait les scènes de délire, on voit des traits médicaux qui ressortent de son appréciation de médecin, psychiatre et neurologue. D'ailleurs, dès 1913, il disait qu'il faut que la littérature apprenne de la psychiatrie. Il disait que les psychologues, la psychologie traditionnelle, c'était bien pour ceux qui ne maîtrisaient pas la question, mais que maintenant, il fallait, au XXe siècle, une littérature qui connaisse son sujet. Et donc, la psychiatrie avait toute sa place pour faire connaître la vérité de ce que c'est le psychisme. Et donc, Bieber-Kopf, ce cas, se retrouve à l'asile de Bourg, où par ailleurs Dublin a exercé comme médecin. Peut-être faudrait dire un mot de ce qu'il a amené dans cet asile. Sa petite amie s'est fait assassiner par Reinhold, qui était le personnage extrêmement ambigu, qui figure comme une sorte de destin tout au long du roman, puisque Bieber-Kopf se lie d'amitié avec lui, est trahi une première fois par lui, et puis va revenir vers Reinhold, et Reinhold va assassiner Mietz, qui est la petite amie de Bieber-Kopf. Et donc Bieber-Kopf est confronté à nouveau à une trahison, et puis à une mort insurmontable, et donc il entre en plein délire. Il devient inaccessible aux médecins, qui ne peuvent plus accéder à sa conscience, puisqu'il est en pleine stupeur catatonique, vont dire les médecins. Et les médecins discutent d'un côté, et de l'autre côté, on va voir la traversée allégorique de Bieber-Kopf confronté à la mort et donc au personnage allégorique qu'on a cité. Alors là, c'est intéressant parce que tout à coup, les médecins discutent. Il y en a qui disent c'est dommage qu'on puisse pas discuter avec lui, il faudrait liquider ce conflit, revenir à des stades antérieurs de sa vie psychique. Et le peu que je vous en dis là vous laisse entendre peut-être qu'ils utilisent des catégories qui sont psychanalytiques, c'est-à-dire cette idée de liquider par la parole le conflit et peut-être remonter au traumatisme antérieur du sujet. Et de l'autre, il y a le psychiatre traditionnel qui dit c'est dommage qu'on puisse pas utiliser l'électricité parce que ça serait très pratique. Il faut d'abord poser le bon diagnostic. C'est une stupeur catatonique. Il n'y a pas à tortiller. De toute façon, on peut pas discuter avec Bieber-Kopf puisqu'il est quasiment dans le coma, quoi. Et en fait, c'est très ambigu cette scène parce que les psychiatres qui sont jeunes, qui sont pour Freud, sont un petit peu ridicules parce qu'ils voudraient discuter avec Bieber-Kopf, mais bon, c'est pas trop possible. Donc là, il y a une part de ridicule. On a l'impression que Dublin se moque un peu de la psychanalyse. Et ça, c'est un peu corroboré par un certain nombre de textes médicaux qu'il a écrits, où en tant que psychiatre, il se moque de cette approche psychogénique, hein, cette idée qu'il y ait des maladies propres au psychisme qui ne soient pas physiologiques. Mais en fait, la position de Dublin est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière, il se rapproche de Freud. Il va écrire un discours au moment du 70e anniversaire de Freud, où il montre que, il dit, Freud est le premier à être entré comme savant dans le domaine royal de l'âme, ce qui pour un psychiatre physiologiste est un petit peu étrange, cette idée du domaine de l'âme. Et en réalité, on peut relire aussi l'histoire de Bieber-Kopf sous un angle psychanalytique, à savoir que Bieber-Kopf, tout au long de son histoire, est comme un soldat qui va au combat, qui dit « je suis plus fort, j'ai des muscles, regardez, je m'appelle Franz Bieber-Kopf ». Il parle de lui à la troisième personne, il n'arrête pas de répéter « il s'appelle Franz Bieber-Kopf, regardez comme il a des muscles ». Donc il est bardé de défenses, dirait-on, dans un langage psychanalytique. Et à la fin, ce sont les défenses qui s'effondrent. Alors, c'est une lecture, hein, évidemment. Dublin ne dit pas, attention, Bieber-Kopf est un cas freudien. D'ailleurs, à aucun moment, on ne saura rien de son papa et de sa maman. Donc ce n'est pas strictement freudien en ce sens-là. Mais il y a bien l'idée d'un retour du refoulé qui s'exerce à la fin et qui peut plus ou moins donner raison quand même à une lecture psychanalytique du cas de Bieber-Kopf. Donc ça donne... Alors là, je tire vers la linéarité, hein, cette idée des défenses qui finalement s'écroulent à la fin. Mais il y a en tout cas une lecture médicale qu'on peut faire de son cas, tantôt par l'axe psychiatrique, mais peut-être aussi par l'enjeu analytique.
Merci. En transition à ma question suivante, je retiens que ce dénouement à la fois dramatique et symbolique est le seul qui se situe en dehors de l'agglomération berlinoise proprement dite, dans un véritable asile d'aliénés que d'ailleurs où Döblin lui-même avait étudié et qui s'appelle Burg. Et en allemand, Das Burg, c'est le livre. Et je suppose que d'abord Alison et ensuite Alexandre, vous avez peut-être un commentaire à donner de ce choix du nom.
Oui. Alors, ce n'est pas, il n'y a pas seulement Döblin, mais beaucoup d'auteurs allemands à l'époque qui ont cette espèce de méthode consistant à avoir un discours qui vaille dans la réalité la plus quotidienne et sur le plan symbolique. Alors, on pense évidemment à Thomas Mann, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et oui, effectivement, Döblin a choisi un lieu qu'il connaissait bien, un lieu quotidien, un lieu qui est réel et qui, en même temps, peut se revêtir d'une charge symbolique très, très forte. C'est dans le livre, c'est par le livre que se produit cette espèce de très étrange confrontation de Franz Bieberkopf avec la mort, en effet. Ça a frappé beaucoup de lecteurs, ça.
Oui, moi, ce qui me marque à la fin, et c'est peut-être en lien justement avec cette lecture, c'est que tout au long du livre, il y a comme, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est peut-être réducteur de dire ça, mais comme deux trames parallèles, le livre qui avertit Bieberkopf en lui disant « fais attention », et qui passe d'ailleurs par toute une série de figures symboliques, Job, Abraham, des figures du sacrifice, que Bieberkopf visiblement n'intègre pas, puisque lui il continue à dire qu'il a des muscles et que même s'il a perdu son bras lors d'un premier épisode de trahison, c'est pas grave, ça va aller. À la fin, ces deux lignes se rencontrent, puisque Bieberkopf, dans le délire, se voit confronté au sens peut-être que toutes ces figures symboliques venaient lui désigner à travers le grand discours de la mort qui lui dit « mais souviens-toi, j'étais là, je t'ai dit ça, tu ne m'as pas écouté ». Et cette fusion, c'est peut-être là que se trouve le mystère. Alors on va peut-être voir que c'est pas en fait une révélation. C'est pas aussi simple qu'une révélation biblique, puisque Burg c'est aussi le livre au sens le plus sacré du terme. Mais en tout cas, il y a une rencontre ici à la fin qui donne tout son sens peut-être au livre et qui appelle une multiplicité d'interprétations. Et on n'a pas fini, je pense, de discuter de ces interprétations.
Et en somme, nous aurions, pour reprendre une formule de l'ancienne nouvelle critique, nous aurions à la fois non seulement la mise en scène d'une aventure, mais la mise en scène de l'écriture de cette aventure qui se termine dans l'asile de Burg et sur le lieu du livre. Alors, ça me conduit à la question suivante. Dans ce neuvième livre, le personnage principal s'absente de Berlin. Mais on pourrait dire qu'à plusieurs reprises dans les 8 livres précédents, Berlin s'absente du personnage principal parce qu'à plusieurs reprises, on ne le voit plus. Il y a des passages entiers, notamment au début de chacun des livres, qui sont consacrés à des espèces de traversées collectives de la ville, traversées à la fois des endroits de la ville, des lieux de la ville, de ses moyens de communication, mais aussi de ses façons de parler et d'écrire. Et qu'est-ce que l'on pourrait dire à propos de ces moments où, semble-t-il, la généralité de la ville semble l'emporter provisoirement sur la singularité du personnage? Ben, je me tourne vers Alison. À quoi sert toutes ces parties qui semblent délibérément menées hors du point de vue, par ailleurs dominant, du personnage principal?
Et là encore, on peut trouver d'autres exemples à l'époque, ce qui ne diminue pas l'originalité de Döblin. Mais que ce soit Bieli dans Petersburg ou Dos Passos dans Manhattan Transfer, quand on fait le portrait d'une ville, visiblement, un personnage ne suffit pas. Döblin a dit dès le début qu'il voulait écrire un roman de l'Alex, de l'Alexanderplatz, avec ses façons de parler, ses populations, son brassage, sa circulation incessante et les travaux de démolition qui font que Berlin est une ville qui ne tient pas en place. Un bâtiment en remplace tout de suite un autre, un visage en remplace un autre, etc. Et donc, oui, l'histoire de Bieberkopf souvent est menacée d'être noyée dans toutes ces autres histoires. Je suppose que l'une des choses que Dublin essaie de suggérer, c'est que potentiellement chacun de ces personnages qu'il esquisse très très brièvement est un Bieberkopf, et donc il y a des résonances, il y a des épreuves similaires qui les affectent tous, Bieberkopf étant peut-être un des cas de figure les plus sérieux, les plus graves, mais nullement le seul. Donc il est constamment mis en regard de ses contemporains. Et je suppose qu'une des questions qui se pose, c'est si Bieberkopf est sauvé, est-ce que les autres Berlinois peuvent l'être aussi ? Est-ce que c'est pour eux tous que ce message est formulé dans le roman ? Voilà. Toute la question est là.
Oui, toute la question est là. Merci. Et est-ce que, d'une certaine façon, on ne pourrait pas aussi évoquer cet axiome que Dublin a posé assez tôt au cours de sa production romanesque, bien avant Berlin, Alexanderplatz, cette espèce de paradoxe dans lequel il dit « forwards », c'est-à-dire « allons de l'avant », n'a jamais été la devise du roman. Et on a l'impression que, par moments, il interrompt à dessein, à des moments de crescendo dramatique très intense, l'action de façon délibérée pour donner des évocations collectives, pardonnez-moi, merci beaucoup, pour donner des évocations collectives de la ville. Et est-ce que vous pourriez, Alexandre, nous parler de cette espèce d'étrange économie de la narration que Dublin appelait lui-même forme épique.
Oui, alors tout de suite, quand vous parlez de cette interruption du drame qui monte en intensité puis qui est tout à coup interrompue par le tableau collectif de la ville, enfin, on pense tout de suite, et peut-être que certains de ceux qui ont vu... on est sur l'Alexanderplatz, là, ça bouge.
Oui, c'est parfait.
Certains de ceux qui ont vu l'exposition qui sont là se rappellent des salles qui sont consacrées à Brecht. Brecht était lui-même l'inventeur du théâtre épique qui était censé interrompre l'identification que le spectateur pouvait avoir avec une action individuelle qui suivait son cours et qui progressait, gagnait un climax et puis se résolvait dans une catharsis. Dublin élabore toute une théorie de l'œuvre épique au même moment où Brecht théorise cette nécessité d'interrompre l'identification du spectateur par des tableaux de manière à faire prendre conscience au spectateur qu'il n'est pas dans une illusion, mais qu'il doit se saisir et agir dans la réalité, que le théâtre n'est pas coupé du réel, mais doit être un vecteur de l'action. Alors, sans doute que Dublin et Brecht, en fait, ont deux conceptions un petit peu différentes de la forme épique, mais il y a quand même une proximité au sens où Dublin conçoit aussi la littérature comme il parle de médicaments efficace, hein, c'est un poison, la littérature. Il parle de l'auteur comme Seelsorger, comme thérapeute, mais thérapeute au sens où il administre des poisons extrêmement puissants. Et donc cette idée, pardon, c'est que le lecteur doit pouvoir se saisir de ce qu'il a lu et ne pas être dans l'illusion d'une identification au personnage. Donc c'est peut-être aussi en ça que s'explique la présence de tableaux qui viennent interrompre l'action et réintroduire Bieberkopf comme finalement un représentant de ce collectif. Dans un de ses textes, il dit que Bieberkopf est une sonde, c'est-à-dire un personnage qui va être le représentant de tout le collectif qui tourne et qui gravite autour de lui. Voilà, donc dans la forme épique telle que Dublin la conçoit, il y a un enjeu collectif extrêmement puissant. Il faut que le lecteur sente que Bibercoff est le représentant de ce collectif, avec tous les enjeux peut-être de solidarité, de prise en charge politique du destin qui sont afférents, puisque, par exemple, Bibercoff, à un moment, se met à vendre des journaux völkisch, comme dit... Comme le traduit Olivier Lelay, c'est-à-dire...
d'extrême droite.
Voilà. Essaye de résoudre l'enjeu politique du moment en choisissant l'ordre. C'est un homme d'ordre. Et donc, il vend des journaux nazis. À un autre moment...
En trahissant son propre passé de socialiste révolutionnaire. Enfin, donc, il est passé vraiment de la gauche révolutionnaire au nazisme en un claquement de doigts, pratiquement.
Et en se faisant rejeter par tous les camarades qui sont face à lui, qui, alors qu'ils chantent la garde au Rhin, eux chantent l'international. À un autre moment, il est redevenu macro et il se confronte à un syndicaliste qui va lui dire « Mais c'est quoi ton métier au juste ?» Et au début, Bibercoff ne répond pas. Mais ensuite, il tient tout un discours pour dire qu'il n'est pas à la solde du capitalisme, puisque lui, il est en dehors de ce système-là. Et évidemment, il y a un conflit extrêmement fort avec le syndicaliste qui lui dit « Mais tu es la lie de la société, puisque ce que tu ne vois pas, c'est l'enjeu de la solidarité. » Bibercoff est un homme seul, un homme qui ne compte que sur ses propres forces. Et donc là, on voit que cette figure, même par les engagements qu'il manifeste, pose des questions politiques qui sont très fortes, des questions qui sont collectives, qui sont celles de l'Allemagne des années 20.
Et peut-être qu'on peut dire même que dans le fait de ne pas le laisser seul dans le livre, il y a une forme de nivellement. Le protagoniste ne peut plus prétendre au premier plan. Il doit faire place aux autres. C'est une espèce de coup d'État au niveau de la narration, peut-être.
Merci. J'en passe maintenant à une des principales difficultés que rencontre le lecteur quand il aborde Berlin-Alexanderplatz, c'est la présence d'une trame symbolique, mythique, allégorique, extrêmement dense, puisque il ne lit pas simplement une chronique individuelle et collective de la ville de Berlin et surtout de ses quartiers Est à la fin de 1927 et au début de 1928, mais il retraverse toute une partie de la Bible et de la tradition du Volkslied, du chant populaire allemand, ainsi qu'un certain nombre d'allusions plus ou moins reconnaissables à de grands auteurs de la littérature ou de la poésie allemande. Et j'aimerais que nous parlions de cette trame symbolique, mythique, allégorique. Plusieurs noms se proposent entre lesquels il est difficile de choisir. Disons en gros symbolique, mais qui constitue en permanence, pratiquement depuis l'ouverture du livre, une sorte de second étage possible de l'avancée de l'action et de la lecture. Et j'aimerais qu'on s'interroge un petit peu sur ce double fond ou ce double horizon de l'action dans la façon dont elle avance, dont elle recule, dont elle stagne aussi, comme on nous l'a montré précédemment. Et peut-être on pourrait prendre l'exemple du personnage de la mort et de la chanson qu'il évoque. Qui veut commencer ? Alison ? Alexandre ?
Oui, donc cette scène, elle est vraiment cruciale, puisqu'elle elle détermine en fait toute la lecture qu'on a du sens final de l'histoire de Bibercoff. La mort s'adresse à la fin à Bibercoff pour lui restituer, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sens de toutes les épreuves qu'il a rencontrées. Et elle vient clore toute une série de figures qui se sont présentées comme des avertissements sur le chemin de ce qui apparaît comme une révélation finale, en tout cas de ce qui est présenté comme une révélation finale, de ce que Bibercoff doit laisser aller, laisser venir les événements. Il y a une longue chanson de la mort qui apparaît à la fin, qui lui dit qu'il faut herankommen lassen, laisser venir les choses. Et Bibercoff finalement finit par céder. Alors, je ne sais pas si on reviendra à l'idée du dénouement après, donc peut-être qu'on...
Comme vous voudrez.
Il y a tout un débat parmi les spécialistes pour savoir si finalement ce message de la mort n'est pas, par exemple, une préfiguration de la conversion à venir de Dublin. Dublin était juif, il s'est converti au christianisme à la fin des années 30, je crois, c'est-à-dire dans une période de grand...
Non. En exil, il était en Californie.
Il était en exil dès 1933.
Oui, non, mais il était en Californie lorsqu'il s'est...
D'accord, donc c'est
converti.
Dans les années 40.
Enfin, on peut dire que ça couvait auparavant, pourquoi D'accord. pas, mais la conversion proprement parlée intervient assez tard.
C'est-à-dire au courant des années 40
Dans les
années 40.
Ouais. D'accord. Donc en tout cas, certains spécialistes disent cette image de la mort qui plaide la solidarité à un personnage solitaire, cette mort allégorique qui ressemble aux vanités du Moyen-Âge, c'est une sorte de préfiguration de ce que de ce que va croire Dublin à la fin de sa vie, c'est-à-dire en une révélation divine, en fait, que le sens de tous les événements, de toutes les épreuves qu'il a traversées doit se transcender par la foi chrétienne. D'autres qui voient Bibercoff finalement sortir de cette traversée allégorique comme un personnage apaisé qui prend un poste de concierge auxiliaire d'une usine et qui se tient bien à l'abri des luttes du monde, il voit au contraire une sorte d'avatar du roman d'éducation traditionnel. Finalement, le personnage est sorti de toutes ces épreuves à travers une révélation finale qui le ramène, qui lui apporte une connaissance de ce que c'est que la vie. Et c'est ce que Walter Benjamin décrit comme étant finalement une sorte de trahison par Dublin du roman engagé qu'il avait pu manifester au départ, c'est-à-dire une sorte de revisitation du roman bourgeois finalement qui transforme un personnage par une leçon finale. Alors c'est très compliqué pour le lecteur. Moi je pense qu'il n'y a aucune des deux solutions qui n'est vraiment admissible, parce que Dublin n'est pas encore chrétien à ce moment-là, et surtout cette mort, je pense qu'on va l'approfondir, elle est pas très très crédible. Elle parle le berlinois, elle parle à Dublin en utilisant des mots grossiers, elle lui dit donne ton cœur qu'on le jette aux ordures. Ça c'était Zoya Mochan, mais le lait dit dans la merde, ta gueule tu peux la garder. Donc sous-entendu, tu vas renaître un homme neuf, puisque on a complètement changé l'intérieur, mais la figure reste la même. Est-ce vraiment une mort qui a un sens divin à nous transmettre avec ces mots-là? Il est permis d'en douter, il y a une dimension très burlesque, et donc c'est très intéressant que cette trame symbolique, mythique, soit traitée par Dublin comme une sorte d'intertexte avec lequel il joue, qui est objet de manipulation, de déformation par l'argot berlinois, et qui viennent transformer sans doute le sens qu'on doit y lire.
Est-ce qu'on peut faire une place au rapport entre la mort et le délire du personnage à ce moment-là? Est-ce que c'est un simple délire, ou est-ce que c'est aussi une tradition qui remonte à toute une symbolique de la littérature allemande, notamment médiévale et de la Renaissance?
Oui, je parlais des vanités tout à l'heure, donc il y a quelque chose de ça. En fait, à la fin, le dialogue avec la mort apparaît comme une... On peut le lire comme une traversée hallucinatoire. Les médecins débattent, et pendant ce temps-là, Bibercoff est confronté au sens de son existence par le dialogue avec la mort. Mais en réalité, on est jamais totalement sûr qu'il s'agit d'une perception de Bibercoff, parce que ça apparaît aussi comme un commentaire du livre sur lui-même, comme si on était dans une trame presque parallèle au délire de Bibercoff, comme si le livre ne nous donnait jamais tout à fait accès aux perceptions de Bibercoff, mais comme à nous laissait flotter au-dessus. Et ça rend les choses beaucoup plus brouillées que si ça n'était qu'une hallucination. Et voilà. Et je pense que c'est une grande originalité de Dublin qui est écrit à l'époque du flux de conscience, que de ne jamais nous laisser nous stabiliser dans une perception individuelle du personnage, mais bien en décollant cette question de la perception individuelle pour aller vers le sens allégorique et nous poser la question du sens de cette histoire. On a parlé de la question collective tout à l'heure, mais on est toujours un petit peu entre les deux, quoi. Et c'est ça qui rend les choses particulièrement intéressantes, quoi.
Alors, ce sens allégorique, il est très loin d'être transparent, puisque la mort qui accable, qui est au chevet de Franz Bieberkopf à la fin pour l'accabler, lui dit en même temps quelle est la vraie vie et la véritable force. Et elle lui reproche d'avoir péché tout au long de sa vie par aveuglement, de n'avoir pas voulu s'exposer au risque de s'affronter à sa finitude, à sa propre mort. Elle lui dit « Tu as toujours voulu te préserver. » Et en même temps, elle dit « Je ne suis pas un simple faucheur. Je ne suis pas un simple semeur. Je suis là pour préserver. » Autrement dit, elle revendique comme sa prérogative ce dont elle l'accuse d'avoir de s'être rendu lui-même l'acteur. Est-ce qu'on peut démêler ce faisceau de contradictions, Alison, à la fin?
Mais même avant, vous parliez d'avertissement et vous avez raison, mais comme l'a dit Alexandre, il y a deux récits qui avancent en parallèle et qui ne se rencontrent qu'à la fin. C'est-à-dire qu'en effet, tout au long du roman, on rencontre des avertissements, des figures bibliques. Abraham, à qui on demande de sacrifier son fils, Job, qui perd tous ses enfants, Adam et Ève qui vont tout perdre parce qu'ils sont trop confiants. Voilà. Donc ces avertissements ne cessent d'arriver. Et s'y ajoutent des chants dont vous avez parlé, celui du faucheur notamment, il y a un faucheur qui s'appelle la mort, etc. À qui s'adressent ces avertissements? Manifestement pas au personnage qui n'a pas la culture, il ne lit pas la Bible, il ne lit pas Brentano, donc c'est pour le lecteur. Et je trouve que la mort elle est vraiment de mauvaise foi quand elle dit à Bieberkopf qu'il ne l'a pas écouté. Comment pourrait-il entendre ce langage? Donc la mort parle enfin à Bieberkopf après avoir plutôt adressé des... Si c'est bien ça, ce qu'on peut dire, c'est que la mort n'a pas cessé de parler au lecteur et qu'à la fin, elle reproche au personnage sa surdité. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois. Et oui, donc ça fait partie des points sur lesquels cette mort ne me paraît pas en effet très, très sérieuse. Voilà. Donc non, je ne démêle pas cette contradiction.
J'adore l'idée de la mort de mauvaise foi, quoi. Oui. Mais qui conserve quand même le dernier mot. Oui. Ça nous mène directement à la dernière question que soulève ce grand texte. Si l'on se réfère à l'ancien adage « De te fabula narratur », c'est de quoi? C'est de toi qu'il est question aussi dans cette histoire. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, une leçon à tirer de ce grand roman? Et de ce point de vue, la question s'est posée à la critique dès 1929. D'une part, je prends les hypothèses extrêmes, la grande ville, comme Berlin, la grande ville moderne, représente une espèce de quintessence de la violence des rapports sociaux dont aucun personnage ne peut se tirer individuellement, et s'il essaie de s'en tirer collectivement, il court le plus grand risque d'être mobilisé, d'être embrigadé et d'être conduit, via notamment les chansons militaires, vers des choses encore pires. C'est pas pour rien qu'à un moment, le personnage, comme vous l'avez rappelé, va vendre avec un brassard à croix gammées des journaux völkisch, des journaux de nationalisme racial. L'autre hypothèse, ce serait que nous aurions une transposition possible du roman de formation bourgeois dans un milieu prolétarien et que moyennant un certain nombre d'accommodements, non pas avec le ciel, mais avec la terre et la société, il serait tout de même possible de trouver collectivement et individuellement une place dans la grande ville moderne. Notamment en opposant, pour reprendre des choses que vous avez dites, Alexandre, en opposant à une morale de l'agressivité, de la démonstration de force, de la démonstration de son prestige. Il y a une série de merveilleuses trouvailles de lexicales d'Olivier Lelay sur se rengorger, fanfaronner, faire le cador, faire le mariole, montrer ses muscles, montrer sa force. Et à cette démonstration de force s'opposerait l'attitude que la mort préconise à la fin au personnage « laisse venir ». Laisse venir de façon plus apaisée et plus calme et plus articulée les différents épisodes de ta propre existence. Alors, l'un et l'autre successivement, dans l'ordre que vous voulez, vous parieriez pourquoi ?
Alors, est-ce que je peux commencer par dire que laisser venir, c'était déjà la leçon à la fin de Wang Lun, donc un roman bien antérieur, peut-être de 1916, et là aussi, il y avait des tentatives révolutionnaires dans la Chine lointaine et ancienne pour instaurer un nouvel ordre. Et apparemment, la leçon finale, c'est accepter. Donc, pas étonnant que Benjamin et Brecht aient trouvé que ça manquait un petit peu de punch révolutionnaire.
Certes.
Et je pense très honnêtement que Dublin ne s'est jamais lui-même départi de ce désir de concilier un grand élan mystique et une portée révolutionnaire. Il a essayé de dire et de répéter que la foi était elle-même militante, qu'elle faisait se battre, etc. Mais malgré tout, il est pris dans le désir de sauver un individu sur un plan spirituel. Il a du mal à le sauver aussi sur le plan social, en effet. Et de ce fait, le salut de Bibercoff est plus individuel que collectif. Et la grande ville, en fin de compte, est représentée comme Babylone. Enfin, vous ne l'aviez pas dit, mais vous l'avez pensé très fort. Hein. On fait appel à l'Apocalypse pour représenter la grande ville sous le visage de la grande prostituée. Hein, donc c'est très, très mystique. Hein. Voilà, donc à un moment ou à un autre, on va parler de cette fameuse phrase de Dublin lui-même disant qu'il avait peut-être eu tort de faire sonner les trompettes et de crier au triomphe à la fin de son roman, puisqu'il ne sait pas lui-même très bien vers quoi Bibercoff pourrait aller. Qu'est-ce qui pourrait être la suite? Qu'est-ce qui pourrait être l'action? La vie de cet homme régénéré, Dublin avoue qu'il n'en sait rien.
Donc, Alexandre, merci Alison. Alexandre.
Oui, enfin, dans tous les textes, de nombreux textes antérieurs de Dublin, il parle de son inquiétude vis-à-vis de la vie moderne. Il y a, dans la préface de Wang Lun que tu viens d'évoquer, Alison, il parle des lampes à arc électrique et il dit ce monde moderne, je n'y suis pas très à l'aise. Je me souviens plus des mots exacts, mais je ne m'y reconnais pas. Voilà. Et donc, au début, il a été très proche de Marinetti, hein, des futuristes. Il a rompu avec eux au début des années 10, et même peut-être avant, de manière assez franche. Et après, il est dans une ambiguïté, dans une tension, où il est fasciné par la vie moderne, mais en même temps extrêmement suspicieux de ses violences. Et ça, il va le théoriser, parce que Dublin était un grand essayiste, un grand écrivain de textes théoriques, dans ce qu'il appelle l'âge naturaliste. Donc il dit que, c'est peut-être pas très très original, mais enfin il le théorise avec ses propres mots, on est passé avec la modernité de l'âge humaniste à l'âge naturaliste, et on est dans la phase maniaque, pour revenir peut-être à un terme psychiatrique, de l'âge naturaliste. Ça, c'est la modernité triomphante, la modernité folle. Et il en appelle à une spiritualisation, un approfondissement, faire Tifung, je crois, il l'utilise comme terme, de l'âge naturaliste. Alors, qu'est-ce que pourrait être cette spiritualisation de l'âge naturaliste? C'est bien mystérieux. Peut-être que la fin du roman est une suggestion vers ce que ça pourrait être, puisque Dublin, dans un autre texte, explique qu'il a essayé il aurait voulu faire un deuxième tome après Berlin Alexanderplatz pour montrer comment le moi apaisé peut rencontrer la nature et le monde qui l'entoure de manière harmonieuse. Mais il dit, j'ai jamais réussi à l'écrire, ce roman. Heureusement qu'il n'a pas réussi à l'écrire, parce que ça serait assez ennuyeux, je pense. En tout cas, peut-être l'épilogue, c'est ce qu'il appelle un pont vers une rive absente, c'est-à-dire une sorte de de suggestion en quelques pages de ce que pourrait être une morale où le personnage, un personnage romanesque pourrait trouver un rapport apaisé avec le monde. Mais ça, il le balaye très très vite puisque ça ennuie tout le monde. Et à la fin, le narrateur finit par dire « Nous savons ce que nous savons, nous l'avons payé bien assez cher. » Donc par la tautologie, il nous balaye tout ça vers Aben Steuer, Bezahlen müssen, très bien. Et ben ça s'est plié et finalement on fait sonner la fanfare et on s'arrête parce qu'il n'y a plus rien à dire. Et je voudrais juste terminer par un terme d'une phrase de Benjamin qui est passionnante à cet égard, même si je ne suis pas d'accord avec sa lecture qui est que la morale finale est bourgeoise. Je pense que Dublin a conscience que ce qu'il nous offre est tout à fait impossible et donc il fait sonner les trompettes pour donner le change, mais il n'est pas dupe. Benjamin dit « Quant à nous, nous ne l'épirons pas dans sa loge de concierge. C'est en effet la loi de la forme romanesque. À peine le héros a-t-il su céder lui-même que son existence ne nous est plus d'aucun secours. » Et peut-être que là, Benjamin dit précisément pourquoi on lit des romans et à quoi on s'attache quand on lit un roman, c'est-à-dire à un personnage qui est en but au monde et pas apaisé et qui ne laisse pas venir des choses. Sinon pourquoi lire des romans, quoi ? Mieux vaut lire du développement personnel.
Merci, cette phrase de Benjamin me fournit la transition toute trouvée avec le dernier point que nous allons... le personnage ne nous est plus d'aucun secours. Alors, on pourrait parler maintenant, pour terminer, et avant de donner la parole à ceux qui, dans le public, qui nous a si aimablement écoutés jusqu'à présent, voudront bien l'apprendre, nous pourrions parler très rapidement de la postérité de ce livre. Doublement, la postérité par rapport à Dublin lui-même et à son travail d'écrivain à partir de son départ en exil jusqu'à sa mort. De quel secours Bibberkopf a-t-il pu être à Dublin lui-même dans la suite de sa carrière de romancier et d'essayiste ? Et d'autre part, le secours, ou plutôt la ressource qu'un certain nombre de grands artistes, notamment au cinéma, ont trouvé dès le début des années 30 dans le texte de Berlin-Alexanderplatz, soit du côté de la pièce radiophonique qui était un genre très en vogue, très productif, sous la République de Weimar. Et donc, Dublin lui-même a écrit une adaptation, mais simplifiée, de son roman. Il a participé également au scénario de la première version cinématographique du texte, qui est de 1931, si mes souvenirs sont exacts. Et puis ensuite, on pourra évoquer le grand travail de Rainer Werner Fassbinder et peut-être celui de Bourcani pour finir. Donc peut-être, Alexandre, sur la façon dont dans son œuvre de façon majoritaire en exil, Dublin prend le relais de Berlin-Alexanderplatz.
Oui, alors ce qui est très déroutant avec Dublin, c'est qu'il a écrit des textes tous très différents les uns des autres, dont un seul a rencontré vraiment le succès qui est celui dont on parle, puisque les autres, enfin Dublin était un auteur estimé au moins jusque dans les années 30 en Allemagne, mais ses autres livres n'ont pas rencontré le succès escompté. Et à chaque fois, il se saisit de milieux très différents. On a parlé de la Chine du Moyen-Âge, l'Allemagne du XVIIIe siècle. À chaque fois, il se situe, même des romans totalement fantaisistes, hein, les monts, les mers, les géants, qui est dans un monde totalement imaginaire, où il y a des hommes, femmes. Donc c'est très déroutant. Il déploie son imagination dans des milieux, dans des directions extrêmement différentes. Et à partir du moment où il est en exil, on a l'impression que... j'ai pas tout lu de sa production postérieure à Berlin-Alexanderplatz, mais dans novembre 18, où il revient sur la Première Guerre mondiale et les causes un peu de la trahison de la Révolution allemande, hein, de 1918, il est plus en recherche de sens que dans la mise en scène d'un conflit tel qu'il était présenté dans Berlin-Alexanderplatz. C'est pour ça qu'on peut être très dérouté à la lecture des romans suivants de Dublin, qui, me semble-t-il, oriente beaucoup plus le lecteur dans une direction que ne le fait Berlin-Alexanderplatz. Il a écrit un dernier roman qui s'appelle Hamlet, où la longue nuit prend fin, où il met en scène des thèmes qui sont très proches finalement de ceux de Berlin-Alexanderplatz. Un personnage traumatisé par la guerre, en l'occurrence c'est la Seconde Guerre mondiale, en conflit avec le monde. Mais finalement, tous ces conflits vont trouver une résolution parce que Edward Allison se fait, lors de sa convalescence, conter des tas d'histoires. Donc, c'est une sorte de récit des mille et une nuits, hein, où tous les proches d'Edward Allison vont se relayer à son chevet pour essayer de résoudre son problème psychique. Et finalement, le problème psychique, là, pour le coup, il vient bien de Papa et de Maman. C'est-à-dire que Dublin, à la fin de sa vie, s'est vraiment rallié à une version rigoureuse de la psychanalyse. Et on a l'impression que tous les conflits dont on parlait tout à l'heure, cette tension, cette ambiguïté, et un petit, enfin là je porte un jugement sur l'œuvre suivante de Dublin, mais on a l'impression que il a tranché d'une certaine manière, et c'est peut-être ce qui va le rendre aussi inaudible dans l'Allemagne d'après-guerre quand il va revenir sous uniforme français, en étant persuadé justement que il a un message à transmettre à l'Allemagne, c'est qu'elle a trahi les idéaux. En se ralliant au nazisme. Et ce message-là, il n'est pas du tout entendu, ni sans doute audible à l'époque. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question, mais en tout cas, dans la postérité de l'œuvre de Dublin, on a l'impression que il a un message à transmettre, peut-être plus explicite que n'était le dispositif extrêmement intriqué, collectif et en même temps individuel, tendu de Berlin à Alexanderplatz, qui fait son actualité aujourd'hui, à mon avis, quoi.
Alors, au risque d'être pas tout à fait d'accord, je ne sais pas si c'est si clair. Moi, je suis très déroutée en lisant novembre 1918, parce que oui, il y a bien une dimension historique, les derniers jours de combat, l'instauration de l'armistice, les querelles de pouvoir, etc. Et dans le même temps, deux des personnages centraux sont Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, et Rosa Luxemburg voit le diable. Enfin, là encore, on a une espèce d'intervention surnaturel, suprahumaine, et enfin voilà. Donc le message cherche toujours à articuler la dimension individuelle de la foi et la dimension collective de la lutte, assez étrangement. L'un des personnages est un converti qui va aux côtés des révolutionnaires parce que Christ lui dit que c'est là qu'est sa place. Enfin voilà. Donc ça continue à essayer de marier ces dimensions, on va dire la dimension politique, reconnaissable, historique, au fond celle que les lecteurs allemands vont reconnaître parce qu'ils ont traversé ces années-là, et un message assez étonnant, y compris pour le président Wilson, qui est aussi une espèce de prophète que plus personne n'écoute et qui finit complètement démoli. Enfin, donc je trouve que cette ambiguïté, elle demeure jusqu'au bout. C'est pas simple à lire, Dublin. Je trouve ça personnellement très jouissif et même parfois très drôle. Je sais pas si ça vous frappera aussi. Mais je ne trouve pas que le message devienne plus lisible par la suite, personnellement. Et peut-être puisqu'on parle de conflit, j'aimerais dire que pour moi, l'une des grandes énigmes de Berliner Alexanderplatz, c'est qu'il n'est pratiquement pas question de la Première Guerre mondiale. On sait que Franz y a participé. Il en parle très, très rapidement.
Au siège d'Arras.
Oui, voilà, et à Kovno.
Et à Kovno, en Pologne.
Voilà, il a été à l'ouest et à l'est. Oui. Quelle chance. Et il dit ça pour faire taire un jeune blanc-bec. Toi, tu sais pas, t'étais pas au front. Alors, il est question à trois autres endroits d'anciens combattants, mais c'est tout. Quel rôle ce conflit-là joue-t-il dans la crise de l'Allemagne ou de Biberkopf lui-même ? Peut-être que pour les lecteurs de Dublin, c'était évident, un type aussi violent, c'est un ancien combattant. Peut-être qu'ils ont fait le lien, mais le lien n'est pas explicite. Et donc, là aussi, il y a beaucoup d'interrogations qui, pour moi, ne sont un peu plus résolus quand on replace Berlin Alexanderplatz dans l'ensemble de l'œuvre, parce qu'avant, il y a Wallenstein qui parle effectivement des terribles batailles et destructions de la guerre de 30 ans. Et après, il y a novembre 1918 qui, lui, revient beaucoup plus explicitement sur la Première Guerre mondiale. Mais dans Berlin Alexanderplatz, de cette guerre qui a vraiment façonné le quotidien de tous ces Berlinois, il n'est pas question. Ou presque pas.
Oui, c'est très juste, et cela donne à penser, et ça rappelle la phrase de Walter Benjamin disant que de toutes les guerres qui se sont succédées dans l'histoire de l'humanité, le premier conflit mondial est le premier jusque-là, malheureusement, le seul dont les anciens combattants sont revenus dans l'incapacité presque complète d'articuler verbalement leur expérience. Et je crois que c'est ce que vous dites est très juste à propos de Berlin-Alexanderplatz et du relatif silence des anciens combattants. Un dernier mot peut-être sur les adaptations cinématographiques.
Oui, alors la seule que j'ai vue, moi, c'est celle de Fassbinder en 14 heures. Enfin, c'est une adaptation monstre, extraordinaire, parce que Fassbinder arrive à restituer justement tout ce qu'on a décrit comme étant un patchwork du texte à travers des outils visuels, hein, les outils du cinéaste qui sont, par exemple, le fait de... Il y a une scène qu'on n'a pas citée qui est le tableau des abattoirs de Berlin. C'est spectaculaire parce qu'il nous décrit les abattoirs de Berlin sur un chapitre entier. C'est très intéressant parce que ça a un rapport au sacrifice, hein, les abattoirs, les animaux qui vont être abattus. C'est un lien à la trame symbolique plus que ça n'en a l'air au départ. Donc par exemple, à ce moment-là, on a une voix off dans le film de Fassbinder sur des images d'archives qui nous présentent le travail dans les abattoirs. D'autres éléments qui viennent directement du cinéma muet, c'est des intertitres qui viennent présenter en fait certains textes. Parfois, il me semble que le Volkslied apparaît. Il y a un faucheur qui s'appelle La Mort, mais ça peut être du discours scientifique qui est présent dans ces intertitres. C'est-à-dire que le lecteur est confronté à différentes manières d'entrer dans la trame très hétérogène du roman. Et à d'autres moments, c'est des personnages qui se mettent à déclamer ou à réciter le texte scientifique, les articles de journaux, ou par exemple... choix très intéressant de Dublin. Tout le discours de la mort qu'on a cité, c'est pas la mort qui l'a dit, c'est le personnage de Reinhold qui, depuis le début, figure un petit peu le destin auquel revient se confronter Bibercoff. Donc, on pourrait discuter la pertinence de cette question. Est-ce que Reinhold est à même de transmettre le message ? Mais en tout cas, Fassbinder parvient à une restitution très très juste par le cinéma des moyens propres de Dublin. Je dirais juste une petite chose, et notamment parce qu'il y a un texte de Fassbinder en postface de l'édition de Gallimard, donc tout le monde le lit. Fassbinder écrit de manière un peu lapidaire, finalement c'est la première tentative de traduire en littérature les découvertes de Freud. Donc là, il prend parti, d'ailleurs dans son œuvre, il prend parti, le conflit entre les médecins à la fin fait clairement apparaître que le psychiatre qui veut soumettre Bibercoff à l'électricité est un pur salaud qui est en train de se couper les moustaches au moment même où il discute quand même d'un de ses patients, alors que le jeune, peut-être qu'on pourra en discuter, mais le jeune médecin de l'avant-garde qui défend la psychanalyse, lui, paraît très soucieux de Bibercoff et suscite beaucoup plus d'identification de la part du spectateur, à mon avis. Et donc, sans doute qu'il y a des choix aussi de la part de Fassbinder qui, sans doute, peuvent être discutés, mais il y a un vrai regard et une force... impressionnante qui, je pense, a fait connaître le texte à de nombreux lecteurs.
Alison ?
Non, mais je crois qu'il est temps de passer la parole à la salle, non ? Je ne dis pas de bêtises ?
J'ajouterai une chose à ce qu'a dit très justement Alexandre, c'est que c'est toute l'œuvre de Fassbinder qui, d'une certaine manière, est une relecture et une reprise de Berlin-Alexanderplatz. Dès son premier film, L'amour est plus froid que la mort, qui est une sorte de film noir, de film policier, il y a un épisode où un personnage qui s'appelle Franz rejoue un épisode célèbre de Berlin-Alexanderplatz. Et il y a au moins trois films de Fassbinder qui empruntent une partie de l'action à Berlin-Alexanderplatz. Dans l'un des seuls films où Rainer Werner Fassbinder joue lui-même le rôle principal, qui est, je crois, L'amour est plus fort que la mort. C'est La loi du plus fort, pardonnez-moi. Il se donne lui-même le nom comme personnage de Franz Bibercoff. Et il y a une double nomastique dans tous ces films. Il y a à la fois le nom du metteur en scène qui apparaît, Rainer Werner Fassbinder, et dans les crédits à la fin, il y a toujours un nom qui apparaît, soit comme monteur, soit dans une autre fonction technique, qui est celui de Franz Walsh, et qui désigne Fassbinder lui-même, avec le prénom qu'il emprunte au personnage de Dublin, et le nom de Walsh, qu'il emprunte à l'auteur américain, un des metteurs en scène américains qu'il aimait tout particulièrement, le metteur en scène hollywoodien Raoul Walsh. Et donc, le personnage de Bieberkopf n'a cessé d'intriguer et d'irriguer l'œuvre de Fassbinder en dehors de l'adaptation magistrale dont nous a très bien parlé Alexandre. Merci de votre grande patience et il est temps de passer la parole à ceux d'entre vous qui souhaiteraient ajouter un certain nombre de commentaires, de précisions et de réparer les oublis que nous aurons fatalement commis.
Merci de votre présentation. J'aurais deux questions. La première, c'est sur la traduction. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il est très difficile, enfin, c'est un roman qui fait beaucoup appel au dialecte berlinois. C'est très difficile de traduire un dialecte dans une langue autre. Vous aviez expliqué que la première traduction ne vous semblait pas très satisfaisante de ce point de vue. Zoya Mochan avait traduit de l'argot par de l'argot français. En quoi la traduction actuelle vous semble meilleure ? Comment la traduction actuelle a surmonté cet obstacle du dialecte, selon vous, pour présenter une meilleure version de ce roman ? La deuxième question, elle est plus historique. Comment situeriez-vous ce roman dans la production artistique de la République de Weimar ? On est entre l'Allemagne impériale et le régime nazi. Est-ce que vous considérez que ce roman est emblématique de l'esprit de Weimar ? Et en quoi ? Et qu'a reproché le régime nazi à ce roman ? Je crois qu'il a fait partie des autodafés. Voilà.
Est-ce que vous déjà, quand l'auteur est juif, c'est de la provocation.
Ah, absolument. Donc, mais dans le contenu même de l'œuvre, est-ce qu'il y a des choses que le régime nazi a pu reprocher.
Des juifs sympathiques, là aussi.
Voilà, c'est ça, ce sont ça mes deux questions.
Et merci. Une dénonciation des journaux folkish, c'est-à-dire que quand le personnage se met à porter le brassard à croix gammée, il est de toute évidence en train de faire une bêtise. Donc voilà, l'auteur s'est clairement situé politiquement. Je vais laisser Alexandre répondre de façon plus détaillée sur la traduction.
Je dis un mot aussi des nazis. Pour eux, le roman était représentatif d'une des déviations les plus coupables à leurs yeux de la littérature contemporaine, ce qu'ils appelaient Asphaltliteratur, la littérature du bitume, la littérature des grandes villes. Et pour des gens qui étaient des partisans du sang et du sol, ça n'allait pas du tout dans leur sens. Et à propos de la traduction de Zoya Mochan, il faut rappeler que sous l'occupation, les autorités allemandes avaient mis ce livre sur la liste auto des livres interdits et Gallimard a été cordialement prié de mettre au pilon les exemplaires de la première traduction, celle qui datait de 1933. J'ai coupé la parole à Alexandre.
Mais on peut peut-être commencer par dire que justement, le lait n'essaye pas de trouver un dialecte, il crée quelque chose en partant des rythmes et des rimes, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose de très très vivant, éventuellement dialectal, mais surtout de très beau. Voilà. Mais je pense qu'Alexandre peut donner des exemples beaucoup plus précis.
Oui, je vais peut-être donner un ou deux exemples. Alors, il y a une première chose qui est la prononciation orale. Olivier Lelay explique qu'il s'est inspiré de Guyotat, qui déclame, comme vous le savez, ses textes à l'oral et qui bourre ses textes d'apocope. Et donc, il y a énormément d'apocope. Au début, c'est un petit peu difficile d'entrer dans le texte. C'est-à-dire que le L devient E. Il y a des apostrophes qui remplacent des E qui sont éliminés. Donc ça, c'est une première restitution qui va donner une dimension orale. Alors ça pourrait vieillir très très vite, hein, ce genre de choix, c'est un petit peu risqué, mais tout de suite on entre dans un rythme et on est forcé de se l'approprier. Je trouve que ça fonctionne bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses qui ne traduisent pas, par exemple le nez berlinois qui remplace le Nein, eh bien, il le garde tel quel, en faisant le pari que ça va introduire une sorte d'étrangeté pour le lecteur, mais que finalement c'est très compréhensible comme ça et que c'est pas la peine d'essayer de le traduire par un nouet ou enfin je ne sais quoi qui serait français. Et finalement le dernier point de la réponse, ça rejoint ce qu'a répondu Alison, c'est que c'est un peu New Age, je ne sais pas ce qui nous arrive.
On entend les cloches comme dans.
C'est ça, ouais. C'est
comme dans un moment fatidique du roman. Voilà.
C'est que Dublin maltraite la syntaxe, pas seulement. Il ne fait pas seulement usage de néologismes berlinois. Et ça, Olivier Lelay est à même de le restituer beaucoup mieux que Zoya Mochan. Je vais vous donner un exemple. J'ose pas vous lire l'allemand parce que mon accent vraiment. Mais vas-y, Alison.
Ah, das war ein feiner Junge, bloß stotterte mächtig. Es dauerte lange, bis war raus hatte. Darum machte auch so große, flehentliche Augen.
Merci beaucoup. Alors, chez Zoya Mochan, ça donne. C'était un chic type, mais il bégayait fortement. Il mettait du temps pour sortir un mot. Aussi, ses yeux prenaient-ils parfois cette expression suppliante. Donc, chic type, aussi ses yeux prenaient-ils. C'est très écrit, quoi, comme langue. Enfin, chic type, c'est pas écrit, mais c'est pas très grossier. À l'époque de Céline, on aurait pu trouver quelque chose. Enfin, je la charge. Alison a eu raison de nuancer mon propos, mais enfin, en tout cas, c'est en 2022, on peut dire que voilà, ça tient plus du tout la route. Non pas que les traductions sont forcément à remplacer. Il y a des traductions qui tiennent toujours. La traduction de Joyce par Auguste Morel, c'est incroyable hein, ce qu'ils ont réussi à faire. Mais Olivier Lelay traduit comme ça, c'était un chouette gars, sauf qu'il bégayait copieusement, ça durait longtemps avant qu'il sorte quelque chose. Pour ça aussi qu'il faisait de si grands yeux et implorants. Pour ça aussi, le contraste frappe entre le « aussi ses yeux prenait-il » et « pour ça aussi » qui est incorrect, qui est presque plus incorrect que le « darum » allemand, hein, qui pourrait tenir, mais en tout cas, qui donne un rythme oral. De même, lorsqu'il dit « pour ça aussi qu'il faisait de si grands yeux et implorants », cette hyperbate adjectivale, là, cette manière de rajouter un adjectif à la fin de la phrase, oui, c'est très célinien, il s'est inspiré de... Et c'est presque plus incorrect que n'est l'allemand. Mais ça sonne juste au total. C'est-à-dire qu'il a réussi à restituer une langue qui est une sorte d'invention. Hein. Cette traduction, c'est inventer sa propre langue. Je pense que c'est beaucoup plus fidèle qu'à l'esprit du texte initial.
Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Est-ce qu'on a répondu à celle que vous aviez posée, à savoir situer ce roman dans la littérature de Weimar ? Est-ce que vous estimez qu'on y a répondu ou pas ? Un peu plus. Vaste question. Peut-être pour commencer, c'est la deuxième fois seulement que Dublin s'attache à une réalité proche, contemporaine. Il l'a fait dans un premier roman, Vatsek, et puis après, il est parti en Inde, en Chine, en Europe durant la guerre de 30 ans. Donc peut-être que, déjà par le thème, il revient vraiment dans la République de Weimar. Et puis... par la forme aussi, par le propos politique, mais ça je crois qu'on en a déjà peut-être suffisamment parlé, par la forme, avec toutes ces expérimentations, les discours politiques qui arrivent tout à trac, les publicités. On a une assez bonne idée de ce que c'était que marcher dans les rues de Berlin à l'époque, les affiches qu'on voit, les chansons qu'on entend. Donc oui, c'est vraiment un roman nourri de l'époque. Et puis, peut-être que c'est aussi et surtout un roman de la République de Weimar par cette articulation entre un quotidien très, très reconnaissable et une sous-couche mythique. C'est ce que fait Mann à l'époque, c'est ce que font bien d'autres auteurs, Hermann Broch, pour lequel j'ai une affection toute particulière. Et ça aussi, c'est très, très caractéristique. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire le réel, il faut dire plus. Et là, peut-être que le fait que Dublin se soit autant intéressé à la période de la guerre de 30 ans, c'est une période terrible pour l'Allemagne, mais qui a tourné les populations vers Dieu, ce qui fait que l'art religieux a fleuri, les constructions d'églises, l'écriture de chants. Et je pense que Dublin et ses contemporains se sont aussi dit, nous sommes passés par une période de souffrance, où sont nos grandes réalisations spirituelles ? Il nous incombe de leur donner le jour. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais c'est dans ce sens-là que j'irai. Peut-être.
Je voulais juste C'est une idée qui m'est venue quand vous avez parlé de la littérature. Moi, j'ai pensé à l'expressionnisme, où on a vraiment les couches là, de mythique, enfin, et puis la réalité. J'avais deux questions. Vous dites que Dublin est devenu, enfin, utilise, enfin, va devenir chrétien, enfin,
catholique.
Mais tous les motifs sont du Premier Testament.
Non, l'Ancien Testament est très beaucoup plus présent, je dirais.
Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire. J'étais en train de dire que je trouvais que pour quelqu'un qui devient chrétien, il ne parle pas tellement beaucoup de Jésus. Enfin, moi, je l'ai lu il y a très longtemps. Hein. Je l'ai lu, et j'ai trouvé ça très compliqué à lire aussi. Mais je trouvais que justement, il était très... qu'il y avait beaucoup de thèmes du judaïsme, en fin de compte. Alors voilà, j'étais juste étonnée parce que moi, vous m'avez appris des choses.
L'Apocalypse est très présente aussi, oui, surtout aussi. À la fin. Mais c'est vrai que ce sont avant tout les prophètes, Isaïe et Jérémie, qui sont cités. Le cas d'Abraham, le livre de Job, en effet.
Oui, c'est ouais. Mais il y a une tradition de critique chrétienne de Dublin. Sur Berlin-Alexanderplatz. Ouais. Walter Musch, qui est celui qui a dirigé la grande édition allemande, a développé ce type de thèse. Enfin, je suis d'accord, je trouve, tient pas trop la route, mais...
Je suis pas une spécialiste.
En revanche, ce qui est cité, c'est le texte de Luther. Donc, ni juif, ni catholique.
Mais les luthériens reviennent sur le Premier Testament. Le premier. Moi, je dis pas l'ancien, je dis le premier.
Oui,
je fais exprès de dire le premier.
Ça me va. Mais voilà. Vous avez raison, les citations bibliques n'indiquent pas dans quel sens Dublin va se diriger ensuite. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à peu près à la même époque, il a publié son voyage en Pologne, où il se montre fasciné par la religiosité de communautés catholiques et juives. C'est deux choses qui l'ont vraiment frappé. Et je ne sais pas si à cette époque-là, on peut dire qu'il serait déjà en train de faire un choix. Pas pour moi.
De toute façon, pour terminer sur ce premier point, dans la tradition chrétienne, bien entendu, les livres bibliques sont la préfiguration des évangiles. Et on voit très bien comment s'opère, par exemple... À propos de la scène des abattoirs ou de la préfiguration de l'épisode du sacrifice d'Isaac par Abraham, le glissement au meurtre de Mitze par Reinhold, qui devient une sorte d'incarnation de l'agneau mystique, dont le sacrifice va peut-être, là je reprends les guillemets qui ont été posés par nos deux intervenants, va peut-être être le salut de Franz Bieberkopf. Donc, les deux traditions communiquent justement par les livres sacrés.
Et je voulais aussi savoir s'il y a des textes sur ce qu'il pensait provoquer chez le lecteur en écrivant. Parce que, honnêtement... C'est pas facile à lire. Moi, je l'ai lu il y a longtemps. Je l'ai pas relu pour l'exposition. Je suis passée deux fois à l'expo, mais voilà, le livre, il est pas simple à lire. Donc, est-ce qu'il pensait avoir, beaucoup de lecteurs avec une envie comme ça de répandre une parole ou
Il faut quand même considérer qu'il avait, avec constance, produit des gros machins invendables et que la grande surprise pour lui, ça a été que Berlin-Alexanderplatz s'est très bien vendu. Maintenant. Vous parliez de la République de Weimar, c'est une époque où on écrit des choses énormes et extrêmement exigeantes. Enfin, il n'est pas le seul pour le coup, non. Il n'est pas forcément même le plus extrême ou le plus illisible.
Non, c'était juste.
Voilà, donc je pense que on est dans une époque où les écrivains sont très très exigeants envers leur lectorat.
Oui, mais il faut. Voilà.
Je crois aussi que, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Alison, une des caractéristiques weimarienne de sa production, c'est l'intérêt porté au feuilleté historique. à l'introduction de plusieurs périodes historiques. Et il a essayé de se démarquer de la littérature standard, qui est une littérature linéaire et très dramatisée. Il y a une phrase de lui très tôt, Alexandre sait peut-être de quelle année elle date précisément, c'est quelque chose comme « Vorwärts war niemals die Parole des Romans ». Aller de l'avant n'a jamais été la devise du roman pour lui. C'est-à-dire que c'est très caractéristique d'ailleurs dès les premières pages de Berlin Alexanderplatz. C'est une action qui, sans arrêt, est prise à rebrousse-poil. Le personnage revient sans arrêt en arrière, sur les minutes précédentes, les heures précédentes, les années précédentes, en disant, bien sûr, tout ça est fini. Mais il y revient quand même. Pardon. Excusez-moi.
Je pense qu'il est malheureusement temps de clore cette discussion. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Un grand merci à Jean-Pierre Morel pour avoir orchestré cette rencontre. Merci à vous tous d'être venus écouter ce débat. Et merci à Renaud Guisse de notre régie technique qui nous a enregistré la rencontre que vous allez pouvoir réécouter. Bonne soirée.
Et merci à vous.